Et Axel, la une de la science aujourd'hui s'intéresse aux chats domestiques des Vikings de l'âge de bronze.
Oui Mathieu, tous les grands peuples navigateurs le savaient, les chats sont indispensables à bord des bateaux sous peine de voir ses cordages et ses réserves de nourriture disparaître rapidement à cause des rongeurs.
Oui, on imagine assez mal quand même un Viking câliner un petit chat minou quand même, non?
Ah, il les caressait bien, peut-être, hein, on ne sait pas, on n'a pas de preuves. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il les écorchait. Et oui. Une fois mort, je vous rassure, pour récupérer leur fourrure. Et c'est grâce à cette pratique que les chercheurs danois ont pu avoir accès à des ossements de chats par centaines. Ils retracent dans une étude 2000 ans de l'histoire des chats domestiques au Danemark. Et pour commenter cette étude, nous sommes au téléphone avec Jean-Denis Vigne. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes archéozoologue au Muséum National d'Histoire Naturelle et spécialiste de la domestication. Alors, on observe avec cette étude, et c'est le résultat principal, hein, que les chats domestiques ont beaucoup grandi depuis l'âge de bronze. En quoi est-ce que c'est une surprise ?
Alors, c'est un résultat complètement nouveau, donc c'est nécessairement une surprise. Cela étant dit, l'augmentation de la taille de beaucoup d'animaux domestiques au cours des deux derniers millénaires est quelque chose d'assez fréquent en Europe. Et là, en l'occurrence, ben, ça porte sur le chat. Ça, c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas anticiper. Et du coup, les auteurs s'interrogent sur les causes de cette augmentation de taille.
Mais pourquoi la domestication en elle-même sur les espèces modifie la taille rétrécie ou agrandie les animaux ?
Alors, la domestication au tout début, hein, quelle que soit l'espèce de vertébré, provoque une diminution de taille assez rapide. Alors, pourquoi ? Ben, il y a sans doute des causes liées à l'alimentation, hein, qui évidemment est moins diversifiée et parfois moins abondante lorsque l'animal est élevé par des éleveurs qui sont encore un peu des apprentis que lorsqu'il est libre de choisir sa nourriture dans la nature. La taille, c'est un caractère qui évolue, qui fluctue rapidement au sein des espèces. Il suffit de regarder comment la taille de l'homme en Occident a augmenté durant les deux ou trois dernières générations. C'est un caractère qui évolue très vite et qui est quand même en grande partie contrôlé par des facteurs environnementaux et par, bien sûr, l'abondance de la nourriture.
Alors, qu'est-ce qui est vraiment nouveau dans cette histoire de chats vikings ? C'est cette augmentation sur 2000 ans ou l'augmentation en général des chats domestiques ?
Déjà une augmentation sur 2000 ans et au Danemark, enfin dans cette ère scandinave, pour ça c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vraiment mis en évidence de manière aussi forte et aussi claire. L'augmentation de la taille du chat, à ma connaissance, à l'échelle de l'Europe, on ne l'avait pas non plus véritablement mis en évidence, si ce n'est pour les deux ou trois derniers siècles où ce qu'on appelle les raciations, c'est-à-dire la sélection de races répondant à des canons de beauté ou d'utilité, a pu provoquer, dans certains cas, l'augmentation de la taille des lignées.
Alors, ils faisaient quelle taille exactement, a priori, ces chats, Jean-Denis Vigne ?
Ah ben, au début, c'était des petits minous, ouais. D'une taille modeste, et puis, à la fin, ben, ils avaient à peu près la taille de nos chats de gouttière actuel, hein, c'est pas gigantesque, hein. En tout cas, c'est toujours plus petit que la taille du chat sauvage d'Europe, hein, le chat forestier, qui n'est pas l'ancêtre direct, c'est le cousin de l'ancêtre du chat domestique, mais c'est un très gros chat, hein, le chat sauvage européen, qui se différencie bien clairement de tous ces chats domestiques, même les plus grands, les plus récents.
Alors, si on regarde l'histoire de l'Europe depuis 2000 ans, Jean-Denis Vigne, est-ce qu'on peut imaginer une raison à cette augmentation de taille?
Alors, les auteurs, dans la discussion de leur article, proposent plusieurs raisons qui sont toutes vraisemblables, plausibles, et qui sont plus ou moins toutes liées au fait que les chats auraient eu plus à manger dans ces périodes, disons, entre la période viking et le XVIIIe siècle. Puis après, ils expliquent l'augmentation finale de taille, hein, 18e, 20e, par ces raciations que j'évoquais tout à l'heure. Mais pour le Moyen-Âge, il parle beaucoup de plus d'alimentation, plus de déchets de l'activité humaine. Il n'évoque pas une hypothèse qui, moi, me paraît devoir être prise en considération, c'est la prolifération des rats. Et de rats d'une taille relativement modeste, puisqu'il ne s'agit pas du rat d'égout, hein, des grands rats sur mulot qu'on a aujourd'hui dans nos villes ou dans le métro parisien, mais de rats noirs qui sont un peu plus petits et qui sont des proies tout à fait désignées pour les chats. Alors, il se trouve que le rat est un animal qui n'est pas autochtone en Europe, le rat noir. Il a commencé à être présent ici et là, mais en quantité relativement faible pendant le premier millénaire de notre ère. Et à partir de l'an 1000, à peu près, on observe d'une part une densification très forte des rats dans tous les milieux ruraux, urbains, etc. Donc une abondance de nourriture potentielle pour les chats. Et puis une légère diminution de taille de ces rats, donc qui les rendent encore plus accessibles pour les chats. Et moi, j'aurais bien aimé que les auteurs discutent de cette hypothèse qui, moi, me semble intéressante, même si je n'ai pas de preuves, bien sûr, pour affirmer que c'est là la cause de cette augmentation de taille des chats liée à une augmentation de leur nourriture.
Ben, ça permet de rappeler, Jean-Denis Vigne, quand même que la domestication des chats par l'homme est vraiment liée à la présence des rongeurs. En tout cas, c'est le seul point qu'on peut mettre en avant.
Oui, effectivement, on a maintenant bien décortiqué trois régions dans le monde où le chat a été domestiqué, hein, le Proche-Orient, le Levant, aux alentours de, il y a une dizaine de milliers d'années, puis l'Égypte aux alentours du 6e, 5e millénaire. Et puis, il y a à peu près en même temps la Chine à partir d'une lignée de chats différente. Et dans ces trois cas, c'est le même scénario. C'est ça qui est très intéressant. C'est-à-dire que l'agriculture prend son essor. Les stocks de céréales ou les déchets de l'agriculture s'accumulent dans les villages. Ça attire des rongeurs qu'on appelle commensaux, c'est-à-dire qui viennent se nourrir à la table de l'homme, souris, rats. Et évidemment, les petits carnivores qui les mangent, le chat en premier lieu, pénètre dans les villages. Donc d'une certaine manière, c'est les chats qui se sont rapprochés de l'homme, et puis ensuite, évidemment, le renforcement de cette relation nous a amené à la domestication dont on a les témoins dans nos appartements aujourd'hui.
Très rapidement pour terminer, l'autre résultat de l'étude, c'est que les os marquaient des traces de dépeçage. Ça veut dire que les Vikings aimaient la fourrure de chat, c'est comme ça qu'il faut le comprendre.
Hein. Oui, tout à fait. Les auteurs s'appuient sur deux très grosses accumulations d'ossements de chat qui correspondent à des sites de traitement de la fourrure. Alors ça, c'est intéressant, c'est original. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'utilisation de la fourrure en Europe centrale et en Europe du Nord pendant tout le Moyen-Âge central et le bas Moyen-Âge. C'est bien connu des historiens, mais là, on a la preuve qu'il y avait de véritables élevages de chats pour produire des fourrures, et ils ont utilisé deux gros sites archéologiques avec des accumulations considérables d'os de chats dont on voit très bien avec les traces que les os portent, les traces de découpe que les os portent, qu'ils ont été utilisés pour produire de la fourrure.
Merci Jean-Denis Vigne pour toutes ces précisions, vous qui êtes archéozoologue, merci beaucoup. Et puis Axel, on se retrouve demain.
À demain.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, la part de gènes dans l'acné. Une large étude menée sur 27 000 personnes s'est intéressée aux déterminants de la poussée de boutons qui survient à l'adolescence et pour laquelle nous ne sommes pas tous égaux. Les chercheurs montrent que de très nombreux gènes impliqués dans la genèse des poils sont aussi en cause dans les cas sévères d'acné. Les choses se jouent donc dans la peau, mais également autour des follicules pileux, une piste tout à fait nouvelle pour les traitements qui stagnent depuis des années pour cette pathologie. Au Crétacé, les anciens oiseaux avaient deux plumes détachables en cas d'urgence. Ces deux très longues plumes visibles sur de nombreux fossiles à l'arrière du corps intriguaient les chercheurs depuis un moment, et justement un morceau de ces plumes-queues vient d'être découvert, parfaitement conservé dans l'ambre, et l'étude approfondie de leur structure montre qu'elles sont parfaitement différentes des plumes actuelles, plus légères, plus rigides mais aussi plus cassantes. Les chercheurs imaginent qu'elles étaient un appât pour les prédateurs, un peu comme la queue de certains lézards. Et puis, cher Père Noël, pour terminer, nous avons une mauvaise nouvelle pour toi. Sache que selon un psychologue anglais de l'université de Leicester, qui a questionné de très nombreux enfants dans le monde, c'est à partir de 8 ans en moyenne que nos chères têtes blondes ne voient plus ta magie. L'étude en cours de rédaction, appelée la Santa Survey, reçut la réponse de 1200 enfants. Rassure-toi comme tu peux avec ce dernier chiffre, puisque seulement 34% de ceux qui voient encore ta magie ont essayé d'être plus sages pour avoir plus de cadeaux.